La sagesse de l'homme est basée sur la connaissance de la découverte qu'ils ont accomplie. La sagesse de l'homme ne peut pas te faire réussir. Il peut te faire réussir pour un temps. Il ne peut pas te rendre succès, te faire réussir dans la vie. Pour te rendre et devenir un succès dans la vie, tu as besoin de celui qui connaît la vie. Et Dieu nous a donné sa parole et nous a donné la révélation d'un passé profond et nous a donné la révélation d'un futur très loin et il nous a mis au milieu afin que nous connaissions du passé très loin jusqu'au futur très loin. Dans ce service concernant l'esprit, vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut diviser la parole. La grandeur, ta grandeur n'est pas définie par ton appel. Et la grandeur est définie par la qualité de ton esprit. Le royaume de Dieu n'opère pas comme ça. Le royaume de Dieu opère d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas retourner au royaume de Dieu et vous dire que le royaume de Dieu est pareil que le royaume de ce monde. Cela n'est pas pareil parce que Dieu a créé la terre. Il a créé la terre. Lorsqu'il l'a fait, et cela a été très bon. Le monde est l'expression de sa pensée. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, nous dit, il y a des choses dans le monde naturel qui nous aident à comprendre certaines choses spirituelles. Mais le royaume de Dieu n'opère pas comme ce monde, parce que ce monde opère avec l'esprit du monde, qui est l'esprit satanique. Les gens sont effectivement excellents dans la vie à cause de la quantité de l'information qu'ils ont acquis dans leur vie. Et si un homme a beaucoup de diplômes, et si un homme a beaucoup de livres écrits et disent docteur tel ne peut pas être à côté, c'est le meilleur que tu peux avoir dans son domaine. Et donc, s'il dit que quelque chose est de cette manière, c'est comme ça que c'est. Alors, les gens le disent parce qu'ils pensent à la quantité de l'information, à la quantité de l'intelligence qu'il a dans sa tête. Alors, nous déposons notre futur dans les mains d'un homme qui a une compréhension naturelle basée sur les découvertes scientifiques et l'histoire en général. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne différemment. Dieu encourage comprendre, étudier. Dieu encourage étudier. Dieu veut que nous puissions apprendre, étudier. Dieu nous a dit de le faire. Mais il y a quelque chose que le monde ne peut pas donner, qui doit venir par Dieu. Et cela opère dans le royaume de Dieu. Et cet ingrédient est demandé pour tout étudiant afin que vous puissiez avoir l'information correcte que Dieu veut nous donner. Cet ingrédient est appelé la sagesse. C'est pourquoi David a dit à son fils que la sagesse est la chose principale. Par conséquent, je recherche la sagesse. Et dit, avec tout ce que tu possèdes, trouve l'intelligence. Lorsque vous lisez le chapitre 8 de Proverbes, vous allez étudier beaucoup de choses concernant la sagesse. Il dit, je suis la sagesse et j'ai l'intelligence, la connaissance. Lorsque tu possèdes la sagesse, tu possèdes la connaissance, l'intelligence. Il dit, obtiens la sagesse avec tout ce que tu possèdes, parce que la sagesse est la chose principale, et avec tout ce que tu possèdes, obtiens la compréhension. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a donné la parabole du semeur concernant l'homme qui est parti pour semer. Il dit que lorsqu'il marche, il a semé dans les épis, et les oiseaux du ciel sont venus et manger cela. Et là, lorsque l'homme, les adversaires sont venus, et cela n'a pas pu tenir, et certaines semences sont tombées dans une bonne terre, et ils ont donné beaucoup de fruits, ce soit entre fruits, sans fruits. Et je crois que ça, c'est merveilleux. La première chose dit que la semence est tombée sur le bord du chemin. Et c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui ne l'ont pas compris. Alors donc, Satan vient immédiatement. Satan vient immédiatement. Satan vient immédiatement. Il vient voler la parole qui est déjà dans leur cœur. Et ça, c'est remarquable parce que la parole est allée dans leur cœur. Mais parce qu'ils n'ont pas compris cela, Satan est venu. Il a volé cette parole dans leur cœur. Comment est très important la connaissance. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que nous la comprenons? Et ce n'est pas à nous de crier si nous comprenons ou ne comprenons pas là. La Bible dit, il est donné à nous de comprendre le mystère de la parole de Dieu, le mystère du royaume de Dieu. Au monde, cela n'est pas donné. Mais à nous qui a été donné ce mystère. Mais voici le problème. Est-ce que nous permettons l'esprit de fonctionner au travers de nous pour manifester la sagesse en nous, pour manifester la sagesse à notre monde? Pourquoi plusieurs personnes sont là sans compréhension? Pourquoi leur vie est remplie de questions? Questions. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données librement. Afin que nous connaissions, il nous a donné l'esprit, afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données librement. Alors, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez connaître les choses de Dieu. Lorsque vous les écoutez, vous devrez les connaître. Vous devez juger pour savoir ceci est de l'Esprit de Dieu. Pourquoi les choses du royaume semblent si terrifiant pour les enfants de Dieu? Et la Bible dit, parle de la spiritualité. Il parle de l'esprit de sourd-muet. Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole, mais ils ne peuvent pas l'écouter. Et cela vient dans leur compréhension et cela retourne. Donc, peu importe comment tu le dis, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi nous intercédons et nous prions pour eux. Et lorsque nous prions pour eux, l'Esprit de Dieu travaille dans leur cœur. Lorsque la parole vient, ils peuvent le recevoir. Et tu dois aussi prier comme cela pour toi-même, pour une très longue période de temps, vraiment, afin que ta conscience puisse acquérir cela. Lorsque tu deviens conscient que ton esprit est ouvert à la parole, Est-ce que tu t'observes toi-même? Est-ce que tu observes ta propre vie? Est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu sors de toi pour te regarder, voir où tu vas? Et si tu n'as pas encore commencé à le faire, tu dois le faire. Ce que tu observes dans ta vie, ce n'est pas comment tu, combien d'argent que tu as ou combien d'influence tu as. Ce que tu observes dans ta vie, c'est comment est-ce que l'amour de Dieu fonctionne en toi. Deuxièmement, quel est ton caractère? À quoi ressemble ton caractère? Comment est-ce que la parole de Dieu travaille au travers de toi pour manifester le royaume de Dieu en toi, dans l'humilité et dans la justice? Comment est-ce que la parole de Dieu travaille en toi, dans ta communication? Peu importe la foi que tu as, et si tu es dur, ta foi est un échec. Est-ce que vous le savez? C'est simple, c'est écrit. Et si j'ai la foi qui peut déplacer les montagnes et que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite en rien. Il nous dit ce que l'amour ne fait pas, et dit l'amour n'est pas dur. Et si ton amour, si ta foi est dure, alors ta foi est inutile, même si tu déplaces les montagnes, peu importe ce que tu fais avec ta foi, si tu es dur, ta foi est inutile. Cela ne me profite en rien. Le caractère est très important. Le caractère est quelque chose. Et cela, c'est ta personnalité. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce que ton habilité peut faire pour toi, le caractère. Sois loué à cause de ton caractère. Si vous l'avez, je peux vous dire que vous avez toute chose. Et vous n'êtes pas au courant que beaucoup de personnes qui sont riches, qui ne sont pas contents et qui ne sont pas heureux, pourquoi vous vous combattez à devenir comme l'un d'eux? Pourquoi vous faites d'eux vos enseignants? Dieu nous a donné sa parole et nous a donné la révélation d'un passé très profond et nous a donné la révélation d'un futur très longtemps. Et il nous a mis au milieu. Et maintenant, nous pouvons connaître d'un passé très loin, d'un futur très loin. Et savoir comment est-ce qu'on peut vivre et ne pas faire d'erreurs concernant la vie, pour être sûr de ce que la vie concerne et de ne pas avoir peur de la peur de l'échec lorsque nous le suivons. Et toutes les choses nous montrent la réalité des Écritures. Allons-y dans les deux psaumes. Le psaume 39. Psaume 39, verset 5. Il dit, tout homme a son meilleur niveau est une vanité. Tout homme a son meilleur niveau. En quoi est-ce que vous pouvez écouter? Tout homme à son meilleur niveau est une vanité. Qui de vous a fait une étude biblique à l'école? Vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de ces enseignants à l'école n'étaient pas chrétiens. Et les choses qu'ils étaient en train de nous enseigner, c'était vrai. Ils nous ont lu la Bible et certaines des explications qui nous ont donné était aussi vrai. Mais cela ne veut pas dire que la connaissance vient au travers d'eux, parce que les livres étaient disponibles pour eux, peu importe s'ils étaient corrects ou incorrects, mais nous avons appris d'eux, mais ils n'étaient pas chrétiens. Même si quelqu'un t'apprend de la science, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux parce qu'il n'est pas chrétien. Donc, je ne suis pas en train de dire que si vous lisez un document qui n'est pas écrit par un chrétien, ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc, sa connaissance est importante à cause des pensées qu'il a fait, qu'il a rassemblées. Donc, lorsque vous faites la lignée dans la mémoire, de la mémoire ou de l'histoire, vous allez comprendre que tous ces non-chrétiens qui ont écrit ces livres ont pris ces informations des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont eu des relations avec Dieu. Non, si quelqu'un est un non-chrétien et écrit un livre sur la prospérité, mais vous devez savoir c'est que ce sont des principes qui sont bibliques. Donc, ces gens qui les écrivent ne sont pas fous. Donc, ce qui est problématique, c'est leur interprétation. Donc, le fait que nous sommes allés à l'école, et la plupart des écoles que nous avons, que nous sommes allés n'étaient pas des écoles chrétiennes. Et donc, si le pasteur pense que nous ne devons pas lire des livres qui ne sont pas écrits par les chrétiens, et pourquoi nous ne sommes pas allés, pourquoi nous ne partons pas aussi à des écoles qui ne sont pas pour les chrétiens? Alors, les informations ne sont pas venues directement d'eux. L'homme vient de l'homme animal et que l'homme animal ne peut pas compter 2 plus 2. Donc, ils ne savent pas que la connaissance réelle vient de Dieu. Seulement Dieu qui peut attribuer la qualité de la connaissance de l'homme. Ils disent que peu importe le niveau de l'excellence de l'homme, il est une vanité. La connaissance, la sagesse de l'homme ne peut pas te faire réussir. Ça peut te faire réussir pour un moment, mais cela ne peut pas te faire réussir dans la vie. Souviens-toi de cela. Pour réussir dans la vie, vous devez avoir celui qui connaît en ce qui concerne la vie. Mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, je vous dis cela. Donc, si vous écoutez à l'esprit, il fera de vous un succès. Vous n'avez pas besoin d'être le patron pour avoir une vie excellente. Vous n'avez pas besoin d'être le patron pour avoir une grande vie. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez avoir la vie qui défie les membres les plus excellents de votre école. Nous sommes une merveille pour notre monde. C'est notre appel. C'est notre place. Alors, sois heureux de ce que tu fais. Et lorsque tu entends des choses dire, et ils sont en train de dire que peu importe ce que tu fais, doit contribuer à la construction de l'humanité. Donc, vous devez être content de cela. Votre prospérité ne vient pas du travail que vous faites. Vous devez comprendre cela. Donc, le plus grand arbre n'est pas produit par la plus grande semence. Lorsque vous travaillez, peu importe ce que vous recevez dans votre travail, c'est une semence. Et cette semence n'a pas besoin d'être grand pour pouvoir donner naissance à un grand arbre. Mais c'est la puissance de cette semence. C'est ce que cette semence représente pour toi. C'est pourquoi Jésus pouvait louer la veuve qui a donné la plus petite offrande. Jésus a dit qu'elle avait donné la plus grande offense, parce qu'elle avait donné tout. Lorsque vous avez votre argent, vous regardez que cela n'est pas beaucoup. Mais la question n'est pas si ces choses peuvent être utilisées pour beaucoup de choses. Qu'est-ce que cet argent peut faire? Et qu'est-ce que cela signifie pour toi si ces choses sont données à Dieu? Et Jésus leur a demandé, combien de nourriture avez-vous? Et ils ont répondu, nous n'avons rien et juste 5 poissons et 3 pains. Et Jésus a pris cette nourriture, il a béni cela. Il a divisé cela pour tout le monde. Et qu'est-ce que le monsieur a eu en retour? Il a eu 12 paniers qui sont restés. Parce que cela à toucher les mains de Jésus. Et le problème est que nous regardons où est-ce que nous sommes. je ne gagne pas assez comme cette personne, donc ce qui veut dire que je ne peux pas être comme cette personne. Non, cela ne veut pas dire cela. Là, ta grandeur n'est pas définie par ton appel, par ce que tu fais. C'est la qualité de ton esprit. C'est la qualité de ton esprit. C'est la même chose que cela devait être avec toi. Il y a partout où tu vas, il y a quelque chose que tu portes qui va avec toi. Et les gens doivent dire qu'il y a la différence, il y a quelque chose avec ta vie. Genèse chapitre 39. Et merveilleux. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Ces choses ont été écrites pour nous. Et cet homme était un esclave. Elle a été emmenée dans la maison de Potiphar. La Bible dit que le Seigneur était avec Joseph et il était un homme prospère. Et le mot prospère, c'est un mot traduit en hébreu, c'est salak. Salak veut dire être prospéré et être efficace. Donc, être prospère et être effectif. Donc, Joseph était effectif. Était effectif. Est-ce que vous êtes effectif? Il y a des choses que vous devez observer dans votre vie. Est-ce que vous êtes effectif? Joseph était un homme prospère et effectif car le Seigneur était avec lui. Et parce que son maître a vu que tout ce qu'il a fait réussissait, il a fait de Joseph le maître dans toute sa maison. Donc Joseph est devenu l'intendant de toute la maison. Et lorsque Joseph est devenu l'intendant de toute la maison, Dieu a fait en sorte que tout ce qui est dans la maison de Potiphar puisse réussir. Donc, Potiphar a commencé à réussir à cause de Joseph. Lorsque tu es devenu responsable, qu'est-ce qui est dit à propos de toi? Qu'est-ce qui est dit à propos de toi? Ce que tu fais, est-ce que cela demeure? C'est ce que Jésus nous a appelé. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi que vous avez choisi et je vous ai établi afin que vous y allez et que vos fruits, vous produisez des fruits et que vos fruits demeurent. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donnera. Donc, il nous a choisi pour produire des résultats qui demeurent, le travail qui demeure. Tout ce que vous faites demeure. Tout ce que vous faites demeure. Les autres peuvent venir construire sur ce que vous avez fait. Et c'est ce que votre vie doit être. Et il y a des moments où nous avons des personnes, au lieu de voir la vie positive de certaines personnes et d'apprendre d'eux, ils entrent dans une compétition inutile. Et à chaque fois que tu entends parler de ce frère, tu es fâché. À chaque fois que tu entends parler de cette sœur, tu te fâches parce que tu essaies de te comparer à lui. Non, tu n'es pas content d'entendre leurs histoires à succès parce que tu crois que leur réussite enfonce ton succès. Et c'est pas leur succès, c'est de montrer que tu échoues. Le succès de quelqu'un d'autre ne montre pas que toi, tu es en train d'échouer. Ça ne veut pas dire que tu échoues. Joseph n'avait pas besoin de sonner la trompette. Potiphar savait qu'il était béni à cause de Potiphar, à cause de Joseph. Et donc, tout ce que Joseph faisait, c'était une réussite. Parce que le Seigneur était avec lui. Je parle de servir dans l'esprit. Servir dans l'esprit. Tu es meilleur dans ce que tu fais. Mais la manière dont tu parles aux gens autour de toi couvre ton travail à cause de ce que tu dis. Les gens sont étonnés à cause de ton parler. Change cela, ce n'est pas comme ça que tu es né. Est-ce que vous avez déjà vu où on a utilisé des personnes très grosses comme des top modèles? Pourquoi on ne les utilise pas? Pourquoi on ne les utilise pas? faut marcher de manière fine. Et parce que leur corps ne peut pas être ajusté à cela. Donc, si vous devez être un modèle, vous devez arrêter de manger certaines choses que vous mangez. Parce que votre corps doit changer. Ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à porter cette grosseur de votre corps. Peu importe ce qui se passe. Vous voyez ce que je dis? Et donc, lorsque vous voulez réussir dans la vie, dans certaines choses, vous devez changer. Vous ne devez pas dire que je suis né gros, je suis une personne pleine. Non, ils ne vont pas te sélectionner. Ils ne vont pas te sélectionner. Et la spiritualité aussi est pareille. La Bible dit déposer. Voilà. Déposer tout poids qui essaye de vous retenir et en courant dans cette course, regardons à Jésus. Donc, ceux qui nous représentent aux Jeux Olympiques, est-ce que vous avez vu des personnes très grosses? Est-ce que vous avez vu des personnes avec un gros ventre venir courir? Ils ne peuvent pas gagner. Et même quand tu vois quelqu'un comme ça venir sur le tarmac pour courir, vous savez que celui-là ne va pas gagner. La Bible dit que nous sommes dans une course. Et donc, c'est la course du royaume. Il dit, déposez toute forme de poids. Déposez toute forme de poids. Déposez toute forme de poids. Et courez la course avec patience en regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Joseph était un homme très prospère. Mais que cela devienne ton histoire. Tu sois loué. Quel est le témoignage de ton pasteur concernant John Wesley? Parce qu'il avait énormément de réflexions pour demander celui qui était son responsable à l'époque lorsqu'il étudiait en géologie. Et c'est ce qui a conduit à son salut réel. Et il a posé la question à son maître et dit, « Seigneur, maître, je suis ici depuis 2 ans, j'essaie d'être missionnaire pour pouvoir aller gagner les Indiens. Et j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de ma performance? Comment est-ce que je me suis comporté? » Et le prêtre lui a dit, il dit, avant toute chose, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes sauvé? Il dit, comment? Il dit, est-ce que vous avez la conscience à l'intérieur de ton cœur que vous avez été converti à Dieu? Il dit, et John Wesley a répondu. Il dit, ben, j'espère qu'il est mort pour me sauver. Et John Wesley a dit, j'ai quitté la présence du prêtre. Et je me suis dit, pourquoi ma réponse n'a pas de foi? Et il est retourné dans sa chambre. Il a crié à Dieu, « Oh Dieu !» Il dit, j'étais là en Géorgie pour 2 ans, essayer de sauver les Indiens. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Je suis venu pour sauver les perdus. Et moi-même, je suis un inconverti à Dieu. Aujourd'hui, s'il te plaît, je veux cette foi que personne ne peut avoir sans savoir qu'il l'a. Et c'est là où il a pleuré à Dieu. Et c'était le jour où John Wesley sut que Christ est venu dans son cœur. Il allait prêcher l'évangile plusieurs années après. Que Dieu soit loué. Donc, vous devez vous examiner vous-même. Je vous disais quelque chose. Est-ce que vous savez comment sortir de vous et vous observer de l'extérieur? Sortir de l'extérieur de vous, regardez votre comportement. Regardez la manière dont vous faites les choses. Regardez la manière dont vous parlez. Et nous savons comment regarder notre visage dans le miroir, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir dans le miroir. pour ces choses-là, vous devez être hors de vous-même et vous observer. Donc, tenez-vous par le Saint-Esprit hors de vous et observez-vous vous-même. Observez votre caractère, votre comportement, vos attitudes, vos habitudes, la manière dont vous faites certaines choses. Quelqu'un a dit, ok, attendez, je vous explique ça de cette manière. Il y a des choses qui ne peuvent pas être jugées, excepté par le cœur. Par exemple, l'orgueil. C'est seulement entre toi et Dieu que tu peux dire ce que c'est l'orgueil. Seulement la parole de Dieu qui définit correctement ce que c'est l'orgueil. Donc, tout le monde peut vous appeler orgueilleux, vous dire que vous êtes orgueilleux, mais ils n'ont pas des paramètres de pouvoir juger l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose du cœur. Mais la dureté n'est pas quelque chose du cœur. Vous pouvez être bon dans votre cœur, humble dans votre cœur, et avoir les réponses dures. Et cela doit changer. Tu ne veux pas être dur. Tu ne veux pas être dur, mais tes paroles sont dures. Vous devez apprendre la bonne communication. Ça fait partie de la croissance spirituelle où vous vous développez vous-même. Vous mesurez vos habitudes. Est-ce que vous vous améliorez de la manière dont vous vous adressez aux autres, même s'ils sont vos inférieurs, vos collègues? Est-ce que vous vous améliorez? À quoi ressemble votre langage? Il dit à Jésus, aucun homme n'a parlé comme ça. Ils étaient tous étonnés aux réponses de Jésus lorsqu'il parlait, lorsqu'il leur rendait ministère. Cela leur étonnait. Vous devez raviver ceux qui vous écoutent. Vous savez, lorsque Joseph était là, il n'était pas le maître de la maison. Son excellence n'a pas été découverte lorsqu'il était le chef de la maison. Il a été fait le patron à cause de sa prospérité. Alléluia. L'effectivité, ça c'est la clé. Être efficace. Lorsque tu es prospère, tu es effectif. C'est le même mot, salak. Est-ce que vous voulez être effectif? Concernant gagner. C'est juste le succès. Être effectif. Dieu soit loué. Être effectif. Qu'est-ce que cela veut dire être effectif? C'est faire que les choses marchent. Est-ce que vous voulez être effectif? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour être effectif? Thank you for listening. We trust that you have been blessed. The message you just listened to is a production of the Love World Media Ministry. For more teachings by Pastor Chris on how to live a beautiful, successful, and vibrant life, you can order for the following messages. Attitude. What manner of man is this? And Power of Thoughts, Parts 1 and 2. By exploring the Pastor Chris Digital Library app. God bless you. One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give in your life is not a healing. What God wants to give in your life is not a job. What God wants to give in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about. And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is your season. It is your time. Nothing can hinder you. This is your time. This is your hour. Favor is yours. Thank you. Ne prenez jamais la présence de l'Esprit de Dieu banalement. C'est la meilleure chose dans votre vie. C'est la meilleure chose qui vous soit arrivée, la présence du Saint-Esprit en vous. Comment est-ce que serait votre vie lorsque vous vous ouvrez à la grâce de Jésus-Christ? Quelle vie allez-vous vivre lorsque la grâce du Seigneur Jésus-Christ doit être exprimée dans votre vie? Mais la grâce est le don de Dieu qui nous a été donné. Cette grâce nous a donné les habiletés que personne ne nous a dit. Cette grâce nous a fait de nous plus que vainqueurs. Ça nous a rendu plus que succès. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu par le Saint-Esprit? C'est plus acceptable par Dieu que tout ce que les anges peuvent faire. Peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur, à part que cela soit fait par l'Esprit, cela est inutile. Rien de ce que tu fais pour Dieu ne compte si ce n'est pas fait par l'Esprit. Imaginez, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce que pouvez-vous faire pour Dieu? Il a plus des anges qu'il y a plus de gens sur la terre. Et les anges sont plus puissants que les êtres humains. Et donc, si Dieu veut faire quelque chose, et s'il y a besoin de quelqu'un pour le faire, il peut avoir à ses anges pour le faire. Il n'a pas besoin de nous de le faire. Mais la chose est, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image et dans sa ressemblance. Il a fait cela possible pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Quelque chose que les anges ne peuvent pas jouir. Et ce que nous faisons pour Dieu par le Saint-Esprit, c'est plus acceptable par Dieu que ce que tous les anges peuvent faire. Parce que nous avons le Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Ne prends pas la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi banalement. C'est la chose la plus importante dans ta vie. La présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est l'expérience la plus importante que tu pouvais avoir et la chose la plus importante dans ta vie. Cette présence divine, ne prends pas ça banalement. Pour certaines personnes, c'est juste une expérience, mais c'est plus qu'une expérience. Et il y a certains qui ne savent pas la signification de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. La vie est rien sans le Saint-Esprit. Et si vous arrivez à connaître le Saint-Esprit, vous l'avez fait. Votre vie va donner sa vraie signification lorsque vous découvrez la communion avec le Saint-Esprit. Vous vous souvenez dans 2 Corinthiens, les paroles de l'apôtre Paul, au verset 13, chapitre 13, en lisant du verset 14, de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que tout le monde dise Amen. Alléluia. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce refaire ou fait allusion à la faveur divine. Parce que la parole dit que la loi est venue par Moïse et la vérité et la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc, la grâce, la faveur divine. Donc, la faveur est l'une des significations les plus limitées de la grâce. Vous savez, parce que la grâce, c'est plus qu'un don. La grâce, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui vous est donnée et qui demeure dans votre esprit. Cela ressemble à toutes les beautés de Dieu qui sont dans votre cœur et qui est fait d'être évident dans votre vie. La grâce, c'est l'habilité de Dieu qui vous est donnée. C'est ce qui fait que la plénitude de Dieu soit disponible dans votre esprit. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a apporté. La loi est venue par Moïse. Vous devez faire ceci, vous devez accomplir ceci. Si Dieu doit vous accepter, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et c'est ça, c'est cela la loi. Donc les commandements de Dieu doivent être complètement obéi pour que vous ayez accès à ces bénédictions. Donc, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Comment est-ce que les choses ont changé? Comment est-ce que Dieu accepte les gens? Non pas parce que ils font, mais parce ce que Christ a eu à accomplir. Ce n'est pas que Christ a stoppé la terreur de Dieu, même si c'est vrai. Mais le point est, c'est Dieu qui travaillait en Dieu, qui nous apportait cette grâce. Donc, c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus pour nous apporter cette faveur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'amour de Dieu soit avec vous. Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est ce qu'il dit. Et qu'est-ce que votre vie va ressembler si vous êtes ouvert à la grâce du Seigneur Jésus-Christ de se manifester en vous chaque jour? Quel genre de vie allez-vous vivre si la grâce de Jésus-Christ doit être exprimée dans votre vie? Souvenez-vous de la parole de Timothée, la parole de l'apôtre Paul à Timothée. Il dit, soyez, profitez de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Et nous disons cette prière tout le temps à la fin de service. Donc, nous partageons la grâce. Nous partageons la grâce. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non, partageons la grâce. En d'autres termes, là, c'est dit réciter la prière. La grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Pour nous, nous sommes juste en train de prononcer les bénédictions. Mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Quel genre de prière? Quelle instruction? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a fermé la phrase en disant « Amen ». La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et dit « Sois fort ». Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux profiter de cette grâce? Cette grâce nous a apporté des habiletés indéfinies. Cette grâce a fait de nous plus que vainqueurs. Cette grâce nous a rendus des personnes à succès. Nous ne sommes plus des échecs. Et comment avions-nous profité de cette grâce et de la grâce et l'habilité de Dieu de travailler en toi. La grâce et le don de Dieu qui travaille en toi. Il nous a rendus capables. L'apôtre Paul dit, je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Je peux faire toutes choses. Je peux faire toutes choses. Je peux faire toutes choses. J'ai l'esprit de l'excellence. Je peux faire toutes choses. Et lorsque je fais, personne ne peut le faire comme moi. Je peux faire toutes choses. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, je suis fort dans cette grâce. Je profite de cette grâce. Nous demandons les choses tout le temps, mais nous n'avons même pas encore pris. Et c'est un mystère pour moi lorsque les choses vont mal avec certaines personnes. Pourquoi tu ne regardes pas dans le livre? C'est dans la parole. Regarde ce qu'il a fait de nous. Oui, lorsqu'il parle d'Élisée, le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. Et regarde ce que Jacques a dit. Jacques a dit que Élie était un homme de la même passion que nous, même nature. Élie était un homme comme nous, et nous pouvons prier et puis avoir des réponses, ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes, il pouvait avoir faim. Tout ce que tu pouvais sentir, ça, Élie aussi les a sentis. La peur peut venir, le doute peut venir à lui. Donc ne pensez pas que parce que vous avez la peur, donc la peur ne peut pas venir. Mais la peur peut venir, mais vous pouvez vous tenir ferme à la parole et gagner. Ce n'est pas parce que vous avez la foi que la peur ne va pas venir. Et non, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié. Et il a eu une réponse. L'idée est, vous pouvez prier aussi et avoir la réponse. Que Dieu soit loué. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Lorsque vous lisez Romains chapitre 5, il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, je transporte l'amour de Dieu en moi. Et il y a des gens qui vivent dans l'amertume parce que quelqu'un a fait quelque chose contre eux. Ils ne sont pas contents. Et c'est ça qui contrôle maintenant leur vie. Et chaque jour, ils pensent ce que cet homme, cette personne a fait pour eux. Mais l'amour de Dieu doit être en train de travailler dans ton cœur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Il veut que tu expérimentes l'amour de Dieu tous les jours. Mais tu peux expérimenter l'amour de Dieu dans un certain endroit. Et c'est comme ça que tu expérimentes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu passe dans ton corps. Cela marche au travers de toi. Vous expérimentez l'amour de Dieu en répandant l'amour de Dieu. Vous répandez cet amour. C'est de la manière dont vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu. Vous savez, il y avait un pécheur et quelqu'un est venu lui parler de l'amour de Dieu. Et il écoute, il est touché parce que le message de l'amour est venu à lui et dit, oh, mais je ne savais pas que Dieu m'aimait autant. Et ça, c'est le message de l'amour. Il répond en disant merci. Mais l'amour ne marche pas encore jusqu'à ce qu'il retourne vers une autre personne pour dire « Regarde ce que Dieu a fait pour moi. » Et c'est à ce moment que cet amour commence à marcher. Il doit dire à quelqu'un d'autre, sinon il n'a pas ouvert son cœur à cela. Lorsque vous recevez l'amour de Dieu, vous transmettrez l'amour de Dieu. Si vous ne la transmettez pas, vous la perdrez. L'amour ne peut pas rester là. Il dit, l'amour peut être éteint. Et lorsqu'il parle d'éteint, en d'autres termes, l'amour travaille comme le feu. Vous devez mettre plus de choses pour continuer à, que le feu continue à se consommer. C'est comme ça que vous gardez le feu. Donc, il doit y avoir quelqu'un d'autre qui doit avoir cet amour et quelqu'un d'autre encore et encore. Et plus que nous partageons cet amour, plus de cela que nous gardons. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Et c'est la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Le mot est koinonia en grec qui veut dire communion, qui veut dire participer, qui veut dire camaraderie, qui veut dire intimité. L'unité. Et toutes ces choses. Et de la communion du Saint-Esprit avec vous. Et de la plus importante des choses, la communion du Saint-Esprit. Il n'a pas dit la communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit de la communion du Saint-Esprit. Ce qui signifie c'est que le Saint-Esprit est là pour nous, pour pouvoir être avec Dieu qui est au ciel et Jésus qui est au ciel. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est ici avec nous. Donc, nous parlons au Saint-Esprit. Nous parlons avec lui. Nous communions avec lui. N'ignorez pas le Saint-Esprit dans votre vie. N'ignorez pas sa voix dans votre vie. Il y a la frustration hors du Saint-Esprit. La vie est remplie de frustration en dehors du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Ils sont frustrés à la maison, ils sont frustrés au travail, dans leurs finances, dans beaucoup des zones de leur vie. Mais ils sont chrétiens. Mais quelle est la raison de leur frustration? Ils peuvent... c'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ils peuvent apporter plusieurs raisons à leur frustration, mais ils se trompent. Il y a une seule raison pour laquelle ils sont frustrés, c'est parce qu'ils ont ignoré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît quoi faire sur toute chose. Il connaît quoi faire sur toute chose. Toute chose. Mais lorsque nous l'ignorons, nous sommes là à murmurer, nous pensons que quelqu'un d'autre est la source de notre problème. Nous pensons que cela ne marche pas avec moi parce que Y ou Z a fait telle chose. Il y a des moments où nous détruisons notre amitié. parce que nous pensons que cet autre frère est mon problème. Un chrétien qui connaît le Saint-Esprit s'en fout complètement de ce que quelqu'un a fait pour lui, contre lui. Parce que personne n'est un facteur. Il y a un seul facteur pour ton succès, c'est le Saint-Esprit. Si tu ignores le Saint-Esprit, tu vas rater le meilleur dans la vie. Et tu vas être en train de lutter durant toute ta vie. Laisse-moi dire quelque chose pour vous. Un Chronique, chapitre 28. C'était cette occasion où David appelait son fils Salomon. Et il était en train de finir son travail. Et il savait que le jour de son départ était arrivé. Donc il donnait les commandements à son fils Salomon. Et maintenant il parle. Écoutons, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Il dit, connais le Dieu de ton Père, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il dit, sers-le avec un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Un Chronique, chapitre 28, verset 9. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens servent le Seigneur non avec un cœur parfait? Beaucoup de gens le servent avec une âme bien disposée, mais leur cœur n'est pas dévoué, ou vice-versa. Il veut que tu le serves d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. David, c'était le grand roi de tous les rois d'Israël. Il savait, Dieu a témoigné sur David. Il dit, l'homme selon mon cœur. Du genre qu'il était honoré, de sorte que Jésus soit appelé la descendance de David, ou le descendant de David. Donc, David a une place spéciale avec Dieu. Donc, c'est l'homme qui a aidé Salomon à faire un bon choix. Il dit, mon père m'a dit que la sagesse est la chose principale. Donc, cette nuit, lorsque Dieu est venu voir Salomon et dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon a demandé, donne-moi la sagesse. Et la sagesse est la chose la plus principale. Et de tout ce que tu peux trouver à avoir, obtiens la connaissance. C'était David qui a dit à Salomon. Et maintenant, regardez autre chose que David a dit à Salomon. Il dit, sers Dieu avec un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Parce que le cœur, le Seigneur, pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il n'y a rien qui passe par ta pensée que Dieu ne connaît pas. Il connaît ton imagination. Et dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. J'ai pris ce verset pour juste préciser que beaucoup de gens ignorent le Saint-Esprit et rejettent sa voix. Beaucoup d'entre eux ne le réalisent pas parce qu'ils n'ont pas été enseignés à propos du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas le ministère du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas sa voix. Ils appellent que cette petite voix est facile à rejeter. Sa voix n'est pas forte contre toi. Sa voix est très petite, qui cherche à te calmer, à te guider dans le chemin de Dieu. C'est toujours la voix de l'amour. C'est toujours la voix de l'amour. Il ne va pas accepter ta têtuesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Je suis très têtu. » La voix du Saint-Esprit, si tu l'écoutes, il parle tous les jours, il te parle tous les jours de tout ce qui te concerne. Et il y a des moments où il te dit « La manière que tu as parlé à cet homme n'était pas bien. » Il dit « Excuse-toi. » Ce que tu fais lorsque tu refuses, tu éteins sa compassion. Après, à un moment donné, tu ne vas plus l'écouter comme tu dois l'écouter. C'est maintenant une voix distante. C'est vraiment très facile d'attrister le Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Et il s'est retourné et combattu contre eux. Et Dieu résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble, qui va de l'avant, tu crois qu'il n'a pas d'habilité comme toi, mais toi qui connais que tu connais beaucoup, toi qui as beaucoup de dons, tu as toutes les habilités, mais tu ne comprends pas pourquoi est que celui, cet homme qui ne peut pas te mesurer, continue d'aller de l'avant. Et Dieu humilie l'orgueilleux. Donc, à chaque fois, Dieu te résiste et donne la grâce à celui qui est humble. Tout ce que cet homme fera, ça va aller de l'avant. Toute chose que cet homme fera, cela va aller de l'avant. Parce qu'il connaît ce qui c'est la vie et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Et tu comprends que les gens sont qualifications. Oui, l'autre frère. Ok, tu veux dire que Jim est maintenant ça? Tu me dis maintenant que Sarah est devenue comme ça? Cela t'offense parce que tu les connais. Parce que tu le connais. Donc, ces personnes n'ont rien. Ils ne connaissent rien. Ils ne peuvent pas se mesurer à moi. Ce que je connais, ils ne connaissent pas. Avec toute ma qualification, mais c'est comme ça que c'est. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, le Saint-Esprit, il parle à l'homme orgueilleux et l'homme orgueilleux ne veut pas écouter. Alors, il attriste le Saint-Esprit, il le vexe, ils deviennent maintenant leur adversaire parce qu'ils l'ont résisté. Maintenant, vous pensez que le diable travaille contre toi? Tu es en train de combattre contre Dieu? Ils ont attristé le Saint-Esprit et il a combattu contre eux. Le Père est différent du Fils et différent du Saint-Esprit. Dans leur ministère, ce n'est pas le même. Le Père a une manière dont il fait son ministère. Le Fils aussi a son ministère. Dans le Saint-Esprit, à son propre ministère, qui est différent du Père et du Fils. Et lorsque Jésus est en train de chasser les démons, il dit qu'il chassait les démons à cause du Beelzébuth, et Jésus était étonné, il leur dit, et si tu dis cette chose contre le Père, si tu veux insulter le Fils, il va te pardonner. Mais je te préviens que si tu dis quelque chose contre le Saint-Esprit, parce que tu ne seras pas pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ça, c'est la manière dont le Père et le Fils protègent le Saint-Esprit parce à cause de sa compassion. à cause de la manière dont il aime. C'est la manière, c'est avec lui que le Père et le Fils arrivent à accomplir toutes choses que Dieu veut faire pour un homme. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Et il va et il fait le travail. Ça, c'est l'humilité de l'Esprit. Tu parles de Dieu être humble, tu parles du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas s'humilier lui-même, excepté par l'Esprit, parce que Dieu est très grand. Et même Jésus, lorsque la parole de Dieu est devenue chair, comment? Matthieu 1, verset 18, Jésus-Christ est appelé l'enfant du Saint-Esprit. Et ça prend le Saint-Esprit pour transformer la parole en une personne. La parole a été faite chair, comme on parle le Saint-Esprit. C'est son habileté. Et lorsque Jésus voulait s'offrir à Dieu comme un sacrifice, Hébreux chapitre 9, verset 14, donc Jésus s'est offert lui-même par un esprit éternel. Ah, c'est le Saint-Esprit. Sinon, cela ne sera pas accepté par Dieu. Le Saint-Esprit a dû faire accepter Jésus auprès du Père, même à sa résurrection. La Bible dit qu'il a été ressuscité par la gloire du Père. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a été appelé la gloire du Père. Alors, l'Esprit du Père est venu sur le corps de Jésus et ressuscité des morts. Et c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Le Saint-Esprit a rendu la vie à Jésus-Christ. Vous savez ce qu'il a fait d'autre? Il y a quelque chose de merveilleux dans le Saint-Esprit. Et parce que le Père a été donné plusieurs noms, on lui a donné plusieurs noms. Et lorsque le Fils est né, on lui a donné beaucoup de noms. Mais le Saint-Esprit n'a pas de nom. Dans l'Ancien Testament, il s'est caché au travers du Père. Dans le Nouveau Testament, il s'est caché derrière le Fils. Je veux te dire pourquoi. Est-ce que le Père et le Fils protègent le Saint-Esprit? Ils ne vont pas accepter une insulte contre le Saint-Esprit. Jésus a dit, faites gaffe. Tout péché contre le Père sera pardonné. Tout péché contre le Fils sera pardonné. Blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas pardonné dans ce monde et dans le monde à venir. Ça, c'est puissant. C'est lourd. Il a rendu ça clair. Il dit, non pas en conflit avec le Saint-Esprit. C'est juste pour faire comprendre que cette personnalité, grande personnalité, que le Père a permis d'habiter en nous. Et lorsque nous ressemblons, nous sommes ici dans cette réunion, le Saint-Esprit est présent. C'est pourquoi je vous ai dit, je veux que les peuples de Dieu soient fait attention lorsque nous sommes dans l'Église, parce qu'il y a certaines habitudes, attitudes qui offensent le Saint-Esprit. Donc, vivez votre vie de manière à ne pas offenser le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas peut-être pécher contre le Saint-Esprit. Vous pouvez l'offenser. Vous pouvez le vexer, l'attrister. Il y a des choses que nous faisons qui font en sorte qu'il se retire. Et nous devons faire attention à notre vie. Et si vous voyez un groupe de chrétiens qui dit, qui parle mal des ministres de Dieu, fuyez loin d'eux. Ne sois jamais participant des chrétiens qui parlent des hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont frustrés à cause de ce qu'ils disent. Alors, vous ne savez pas ce qu'ils disent. N'insultez pas les hommes de Dieu et faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Et vous allez voir votre vie prospérer Eux, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Vis ta vie de manière à honorer le Saint-Esprit. Honore la présence du Saint-Esprit.
For more teachings by Pastor Chris on how to live a beautiful, successful, and vibrant life, you can order for the following messages. The Human Spirit, Parts 1, 2, and 3. Be Filled with the Spirit, Parts 1 and 2. And The Communion of the Spirit, Parts 1 and 2, by exploring the Pastor Chris Digital Library app.